Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de l'actualité de la mi-journée, conférence de presse du gouvernement. Le ministre des Affaires foncières donne des éclairages sur la situation à Gargain, celui de la communication sur la suspension de France 24. Amnesty International dénonce de graves violations du droit international humanitaire par les groupes armés et les forces gouvernementales. Au Sénégal, Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois avec sursis et a payé 200 millions d'amende. Et puis, grâce présidentielle accordée à des manifestants et à d'ex-rebelles au Tchad, elle aurait dû s'étendre à tous les membres du FAC, selon notre invité du jour, Yamingue Bitengai. Il est le directeur de recherche au Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines CRASH. Le gouvernement renoue avec les conférences de presse. Ce n'était plus arrivé depuis la chute du régime du président Paul-Henri Damiba. Ce matin, 2 ministres en face des journalistes. Le ministre en charge des affaires foncières a donné des éclairages sur l'avant-projet de loi portant sur la promotion immobilière. Selon Mikaïlou Sidibé, cette loi a plusieurs innovations majeures telles que l'assainissement du milieu foncier, la fin de l'accaparement des terres, assurer une meilleure gestion des terres, la limitation des superficies qui seront octroyées aux entreprises immobilières et ne vise aucunement un intérêt personnel, a-t-il expliqué. En ce qui concerne les zones non loties, nous sommes en train de travailler sur la restructuration de ces zones et l'État va se donner les moyens de le faire, a assuré Mikaïlou Sidibé. Quant au litige foncier dans le quartier Gargain, on a pris des mesures conservatoires concernant les habitants. L'État ne recule pas, il faut que les citoyens avant de construire sur un terrain, se rassure qu'il dispose de tous les documents, a martelé le ministre en charge des affaires foncières, Mikaïlou Sidibé. Le ministre de la Communication s'est prononcé pour sa part sur la suspension de France 24. Nous sommes dans un contexte de guerre et nous n'allons pas accepter qu'un média fasse l'apologie des terroristes pour propager leur idéologie. J'ai entendu des gens dire qu'il n'appartient pas au gouvernement de sanctionner France 24. Il n'y a aucune convention entre France 24 et le CSC, a déclaré le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo. Il prévient également que toute chaîne qui va se faire l'écho de l'idéologie terroriste nous verra sur son chemin. En parlant de nous, il parle du gouvernement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Coopération, le gouvernement décide de la reprise des relations diplomatiques avec la Corée du Nord. L'accréditation d'un ambassadeur nord-coréen auprès du Burkina Faso a d'ailleurs été approuvée. Écoutez à ce sujet la ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, qui affirme que le Burkina Faso a jadis entretenu de bonnes relations avec ce pays qui était un partenaire privilégié sous la révolution d'août 1983.
Le Conseil a marqué son accord et pour l'accréditation de l'ambassadeur Chai Hyushul en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique populaire de Corée, c'est-à-dire c'est la Corée du Nord. Ce qu'il convient de relever, c'est qu'avec ce pays, et le Burkina a jadis entretenu de très bonnes relations et c'était même le partenaire privilégié du Burkina Faso pendant la révolution de feu président Thomas Sankara. Et le domaine dans lequel ce pays entend apporter son soutien au Burkina Faso, et c'est notamment dans le secteur de la sécurité à travers l'octroi d'équipements, l'octroi de matériel militaire, il y a le domaine des mines, le domaine de la santé et le domaine agricole, sans oublier celui de la recherche, où ils entendent aider le Burkina Faso à mener des recherches en vue d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire.
Vous écoutiez la ministre des Affaires étrangères Olivia Rouamba sur la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Corée du Nord. Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale tient la première session ordinaire de la Commission consultative du travail de l'année 2023. La Commission consultative du travail, composée en nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs, est chargée d'émettre des avis motivés sur toutes les questions relatives au travail, à la main-d'œuvre et à la sécurité sociale pour l'amélioration de l'environnement du travail. Le début des travaux a été lancé hier mercredi 29 mars à Ouagadougou. On en parle avec Moumouni Yaro.
La session va passer en revue deux projets de texte, à savoir celui de décret sur les conditions de travail des travailleurs, des professions et branches d'activité non régies par une convention collective et le projet d'arrêté conjoint portant nomination des assesseurs des tribunaux du travail. Roland Sawadogo, directeur du travail.
Nous avons adopté ce décret en 2010 et au lendemain de l'adoption du décret, il y avait quand même de la part des praticiens des récriminations. C'est pour cela qu'avec l'appui du Bureau international du travail, nous avons organisé un atelier il y a de cela quelques mois où nous avons validé tous les textes en matière de travail, en matière de main-d'œuvre. Donc c'est à cet effet que nous devons soumettre le projet de décret au commissaire pour avoir l'avis de la commission consultative du travail.
L'examen de ces projets de texte permettra d'améliorer l'environnement du travail et les conditions de vie et de travail des travailleurs, à en croire le représentant des centrales syndicales, Marcel Zanté.
Ce décret permettra effectivement de pouvoir donner une grille de classification professionnelle et bien entendu une grille salariale. Le deuxième élément sur les assesseurs auprès des tribunaux de travail est également important pour nous, dans ce sens que ce sont ces camarades-là qui apportent leur appui aux magistrats dans le traitement des dossiers de justice pour les conflits de travail.
Les travaux d'examen de ces deux projets de texte vont durer 3 jours.
Suite de l'actualité nationale sur Radio Omega, les tirs entendus hier soir dans le centre-ville de Ouagadougou près de la présidence sont des tirs de sommation qui visaient à alerter un usager imprudent. C'est ce qu'a indiqué l'état-major des armées, invitant les populations à garder leur calme et à vaquer paisiblement à leurs occupations. Après ces tirs de sommation entendus dans le centre de la capitale burkinabé, hier soir, de nombreux citoyens ont rejoint le rond-point des Nations Unies pour veiller, disent-ils, sur le capitaine Ibrahim Traoré. Jean-Paul Ouidraogo pour le point.
Plusieurs heures après les coups de feu entendus dans le centre-ville de Ouagadougou, le carrefour du rond-point des Nations Unies est pris d'assaut par de nombreux manifestants. L'état-major général des armées a indiqué qu'il s'agissait de tirs de sommation qui visaient à alerter un usager imprudent. Selon des sources de Omega, cet usager aurait tenté de forcer une barrière de sécurité dressée autour du quigé du capitaine Ibrahim Traoré. Malgré ce communiqué qui appelle les populations à garder leur calme et à vaquer à leurs occupations, des jeunes se sont mobilisés pour, disent-ils, soutenir le président de la transition, dont le nom est scandé en chœur. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, les ennemis essaient. Mais nous aussi, nous restons mobilisés, a déclaré l'un des leaders s'adressant à la foule. Certains manifestants assurent qu'ils passeront la nuit éveillés pour se rassurer que rien n'arrive au chef de l'État.
Et Amnesty International fait le point des atrocités qu'a subies l'humanité à travers le monde. Pour le cas du Burkina, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme trouve que les forces gouvernementales et les groupes armés ont commis de graves violations du droit international humanitaire. Face à la presse hier mercredi, l'organisation a présenté son rapport 2022-2023. Yasmine Ebié et Charles Da.
Les forces françaises soutenant l'armée nationale ont tué 4 civils lors d'une frappe aérienne. Aucune enquête visant à déterminer la légalité de cette attaque n'avait été ouverte, regrette Amnesty International lors de sa conférence de presse. Selon l'ONG, les droits humains ne sont pas respectés dans cette crise sécuritaire que vit le Burkina Faso. Aziz Kabré, coordonnateur Amnesty International Burkina.
Nous demandons aux différentes parties vraiment, que ce soit les forces gouvernementales, que ce soit aussi les groupes armés, à respecter le droit international humanitaire, à ne pas commettre des attaques aveugles et à ne pas aussi s'attaquer aux civils. Parce que lorsque, en temps de conflit, vous vous attaquez à des civils, c'est une violation du droit international humanitaire. Et nous pensons vraiment que cela n'est pas normal.
S'il est impossible de discuter de la protection des civils avec les terroristes, on doit pouvoir le faire avec les forces républicaines. Telle est l'une des recommandations du rapport d'Amnesty. Yves Traoré, directeur exécutif Amnesty International Burkina.
Est-ce que je peux aller voir un groupe terroriste et lui demander de respecter les droits humains? C'est inadmissible. Par contre, on est dans un état de droit. J'ai face à moi des gens responsables, j'ai face à moi une administration qui répond en fait de l'état de droit. Il faut comprendre que c'est tout à fait logique, cette impression-là qu'on a. Mais qui peut parler à ces groupes terroristes? C'est des terroristes en fait. Et on ne peut que supporter l'action des FDS et du gouvernement pour éradiquer. Parce que sans ça, on ne vit pas nous-mêmes.
Dans le nord et l'est du Burkina Faso, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JESIM, a bloqué l'accès à plusieurs villes et l'approvisionnement commercial de celles-ci, a mentionné Amnesty dans son rapport qui révèle aussi qu'environ 180 000 enfants souffraient de malnutrition chronique dans la région du Nord, de l'Est et du Sahel. Dans cette situation d'insécurité, selon toujours le rapport de Amnesty, plus de 300 000 habitants n'avaient plus accès à l'eau potable à Djibo.
Et soirée Barka, c'est le nom attribué à la soirée du PNUD organisée hier pour le programme de développement des Nations Unies. Il s'est agi de traduire sa reconnaissance et sa gratitude à l'ensemble de ses partenaires, des partenaires qui mènent avec le PNUD des actions au profit des personnes vulnérables du Burkina, surtout en cette période de crise sécuritaire et humanitaire. Moumouni Tamboura et Faouzia Zongo pour le compte-rendu.
Comme une histoire, c'est sur ce thème que s'est tenue la présente cérémonie, comme pour eux, de matérialiser l'histoire entre le PNUD, le Burkina Faso et son peuple. Objectif principal, améliorer l'état de droit, la croissance inclusive et durable tout en promouvant le développement économique par la création d'emplois et d'assurer la sécurité alimentaire dans un climat de paix et de cohésion sociale, a laissé entendre Elsie Laurent Chounoun, représentante résidente du PNUD. C'est tout le sens poursuivi donc par le programme des Nations Unies pour le développement. Plusieurs secteurs d'activité ont vu leurs économies boostées par de divers programmes, en témoignent des témoignages recueillis par une série de projections vidéo. Les bénéficiaires qui se sentent d'ailleurs soulagés ont fait des recommandations. Elsie Laurent Chounoun dit prêter oreille attentive.
C'est normal qu'ils le demandent parce que le développement, il faut qu'il soit durable. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse vraiment s'appuyer sur des partenariats clés et efficaces qui continuent dans le temps pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on fasse pas de l'assistanat, mais qu'on fasse un développement qui se base sur un renforcement de capacité de manière à ce que les bénéficiaires puissent eux-mêmes contribuer à leur développement sans avoir besoin de l'aide du PNUD.
C'est donc pour ce programme de rendre les communautés plus résilientes à travers l'inclusion pacifique et sur la voie d'une croissance économique durable. Cet aspect ne peut que réjouir le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabo, président de la présente soirée.
Vous avez tous suivi les témoignages des populations. Vous avez vu que le PNUD intervient donc à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, au niveau de l'agriculture, de l'élevage, au niveau du petit commerce et même au niveau de la digitalisation de nos structures. Et nous apprécions fortement donc cette contribution.
Le programme des Nations Unies pour le développement intervient au Burkina Faso depuis 1966 et vise à contribuer à une société inclusive, pacifique et d'offrir un espace favorable à une croissance économique durable. Des certificats ont été livrés à Alif Naba et à Malika Laslamazou. Ils sont désormais ambassadeurs nationaux de bonne volonté du PNUD au Burkina.
L'actualité internationale, direction le Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné pour une peine de 2 mois avec sursis pour diffamation, assortie d'une amende de 200 millions de francs CFA. Le juge l'a relaxé pour les délits de faux et usage de faux. Le procès qui s'est ouvert ce jeudi 30 mars 2023 après 2 renvois s'est déroulé de façon expresse en l'absence du principal mis en cause, Ousmane Sonko, et de ses avocats. Le collectif des avocats d'Ousmane Sonko, coordonnée par Maître Siré Clédorli, a décidé de quitter la salle d'audience après que le président du tribunal a rejeté le certificat médical présenté à l'audience. Toujours au Sénégal, le gouverneur de la région de Dakar, Al-Hassan Sall, a pris hier un arrêté portant interdiction de la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs dans l'ensemble du département. Cette interdiction prise hier par l'autorité administrative en prévision des manifestations et troubles qu'il pourrait y avoir aujourd'hui à Dakar, alors que le procès d'Ousmane Sonko contre le ministre du Tourisme devrait se tenir le même jour dans la chambre criminelle du palais de justice.
La revue de presse.
Nos quotidiens du jour nous parlent de la reprise des relations avec la Corée du Nord, une coopération qui permettra l'octroi au Burkina Faso d'équipements et de matériel militaire. Il est aussi question de l'appel du Conseil supérieur de la communication aux autorités pour assurer la sécurité des hommes de médias. Au-delà, l'Express du Faso interpelle la justice à poursuivre avec les condamnations devant les tribunaux dans cette lutte contre ces propos haineux et dangereux. La revue de presse est avec Alinta Ouedraogo.
Diplomatie à la une de nos quotidiens. On parle aujourd'hui de la reprise des relations avec la Corée du Nord. Le Conseil a même approuvé un agrément pour la nomination d'un ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée auprès du Burkina Faso. Une reprise des relations diplomatiques avec la Corée qui permettra à ce pays d'Asie de l'Est et au Burkina Faso d'entretenir une coopération bilatérale exemplaire dans plusieurs domaines comme le secteur de la sécurité à travers l'octroi à notre pays d'équipements et de matériel militaire, mais aussi dans les secteurs des mines, de la santé, de l'agriculture et de la recherche, explique Olivia Rwamba, ministre en charge des Affaires étrangères. Autre actualité, l'appel du Conseil supérieur de la communication aux autorités burkinabées pour assurer la sécurité des hommes de médias face à la récurrence de menaces proférées à l'endroit d'organes de presse et d'acteurs des médias dans l'exercice de leur profession, peut-on lire dans le journal Le Quotidien. Dans la même dynamique, l'Express du Faso interpelle la justice dans cette lutte contre ces propos haineux et dangereux et pense qu'il faudrait poursuivre avec les condamnations devant les tribunaux, tout en l'intensifiant de manière à être plus sévère à l'endroit de tous ceux qui continueront de proférer des propos de ce genre, lance le quotidien Bobolais. L'Express du Faso interpelle également le gouvernement à prendre ses responsabilités et s'assumer entièrement avant que le pire n'arrive, car il sera tenu de tout débordement dans ce sens. Hors de chez nous, l'observateur Palga pose le regard sur la situation au Sénégal. Ousmane Sonko et le président Macky Sall ne se parlent plus que par la rue interposée, fait remarquer mon confrère. Mon confrère craint d'ailleurs des heurts, comme ce fut le cas début mars avec les manifestations violentes à Dakar et dans d'autres villes du Sénégal qui ont fait 13 morts et des centaines de blessés. Comme ce sera encore probablement le cas ce jeudi avec le retour dans la salle d'audience d'Ousmane Sonko. Un procès qui d'ailleurs ne relève pas de la politique, mais du droit, fait remarquer l'observateur Palga, pour qui, s'il est vrai qu'Ousmane Sonko pourrait dire adieu à ses ambitions présidentielles à l'issue de ce procès, le doyen des quotidiens est cependant convaincu qu'il aurait largement contribué à tresser la verge avec laquelle le premier magistrat sénégalais est en train de le flageller et ne pourrait s'en prendre finalement qu'à lui-même.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité du jour est le directeur de recherche au Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines, CRASH. Il se prononce sur la grâce présidentielle accordée récemment aux 259 manifestants condamnés après les manifestations d'octobre 2022 au Tchad et aux 380 ex-rebelles du Front pour l'alternance et la concorde FAC. Yamingé Bitimbay a été joint au téléphone depuis N'Djamena. Il répond aux questions de Bruno Bayala.
Yamingé Bitimbay, bonjour.
Bonjour Bruno Bayana.
Après les manifestations du 20 octobre 2022, quelle est l'actualité récente aujourd'hui au Tchad?
L'actualité récente du Tchad est marquée notamment par la grâce présidentielle que le président de la transition a accordée à 380 éléments des des FACT. Le FACT étant le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, un groupe rebelle dirigé par M. Mahdi. On se souvient de ce groupe comme étant celui contre lequel l'armée tchadienne avait lancé une offensive militaire en avril 2021 et qui s'était soldée, entre autres, par la mort de l'ancien président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno.
Parlons justement de la grâce présidentielle. Comment cette décision du président a été accueillie par les populations?
Diversement reçue par l'opinion publique au niveau du Tchad. Pour beaucoup, c'est plutôt un sentiment ou une expression de reconnaissance d'un signe d'apaisement lancé par les dirigeants de la transition en graciant les éléments des facts. Donc, on estime que c'est une décision qui pourrait apaiser les tensions parce que, entre autres, à la fin du dialogue national, le président de la transition avait déjà annoncé sa volonté d'amnistier, de libérer les prisonniers de guerre. Donc, cette grâce rentre un peu dans cette logique. L'appréciation paraît diversifiée en ce sens que s'il était question de militer pour un apaisement, la grâce présidentielle pour les éléments du FACT aurait dû s'étendre à l'ensemble des éléments du FACT qui ont été jugés et condamnés. Sauf que à peu près 55 des éléments du FACT ne font pas partie de la liste des éléments graciés. Sur cette cinquantaine, il y a le chef du groupe, M. Mahdi Ali, il y a aussi 17 personnes qui sont considérées comme des responsables du groupe.
Alors, le président promet de libérer tous les prisonniers politiques. Et selon vous, pourquoi Mahdi Ali, le chef du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, n'a pas bénéficié de cette grâce présidentielle?
À ce niveau que le bât blesse. Parce que si la volonté, tant était la volonté d'apaiser, cette grâce présidentielle aurait dû s'étendre à l'ensemble des éléments du FACT. Parce que, figurez-vous, le Tchad se trouve présentement dans un contexte où des efforts diversifiés continuent d'être menés pour créer un consensus, une inclusivité autour du processus de transition. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup d'acteurs, parmi lesquels des acteurs majeurs, comme le FACT notamment, mais aussi comme le Parti Les Transformateurs, comme la coalition Wakitama, et comme bien d'autres entités qui sont jusqu'aujourd'hui restées en marge du processus. Parce qu'ils ont exprimé des points qui n'ont jusqu'à présent pas été pris en compte. Alors, dans un tel contexte, si la grâce présidentielle s'étendait à l'ensemble des acteurs du FACT condamnés, cela pourrait ressembler vraiment à une dynamique de renouer le dialogue. Parce que si le FACT avait la volonté de venir s'asseoir à la table des négociations, ce n'est pas parmi les 380 graciés que le Front irait chercher ses représentants pour discuter. Ce serait sûrement parmi ces chefs, donc les 17 qui n'ont pas été graciés, qui sont toujours condamnés. Et c'est naturellement le chef Mahdi qui est condamné par contumace contre lequel un mandat d'arrêt est même lancé. C'est celui-là qui viendrait s'asseoir à la table des négociations. Donc ne pas le gracier, c'est autant le mettre en marge des négociations de façon presque automatique, parce que quelqu'un contre lequel on a lancé un mandat d'arrêt ne viendrait pas s'asseoir à la table des négociations.
Est-ce que cette grâce présidentielle serait perçue comme un intérêt politique ou encore une mesure d'apaisement social?
D'emblée, beaucoup de voix s'élèvent pour estimer que la grâce présidentielle accordée par le président de la transition aux 380 éléments des facts reste quelque chose de marginal, reste juste peut-être une tentative de montrer sa bonne foi alors qu'il n'y a pas de bonne foi à la base.
Au regard de toutes ces brouilles sociales, qu'est-ce que les populations attendent aujourd'hui de la transition?
Je vous avoue que les attentes de la population tchadienne restent pratiquement similaire du nord au sud. C'est plus de justice, c'est une meilleure gouvernance que ce qui a été observé jusqu'à présent. Et puis, c'est aussi une volonté de voir une vie politique nationale animée par l'ensemble des acteurs. La population aurait voulu qu'il y ait un jeu politique ouvert où tous les acteurs clés, depuis peut-être l'actuel président de la transition jusqu'à des acteurs comme le président des transformateurs Masra Succès, que tous ces acteurs soient en train d'être actifs dans la dans la vie, dans le jeu politique. C'est cela l'attente de la population.
Merci à vous, Yamingé Betibaï, d'avoir répondu aux questions de Radio Omega.
Merci Bruno Baena de m'avoir reçu sur votre plateau.
Le Tchadien Yamingé Betimbaï, directeur de recherche au Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines, répondait aux questions de Bruno Bayala. C'est la fin de ce journal réalisé par Adama Konaté à la retransmission Facebook Yaya Diomandé. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.